France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, je vous propose un entretien dans mon bistrot avec une militante pour la paix, Anna Assouline. Elle est même nommée cette année pour le prix Nobel de la paix. Bonjour.
Bonjour.
Anna Assouline, enchantée.
Enchantée.
Je vous fais la bise.
Ouais, on fait la bise. Avec plaisir.
Je suis ravie de vous rencontrer.
Mais moi aussi, je suis ravie.
Et merci d'avoir pris le temps parce que vous êtes militante pour la paix, donc vous avez pris le temps de venir dans mon bistrot.
Ben, je suis super contente. Moi, c'est moi qui suis très honorée d'être avec vous, avec une
grande journée. Ça va nous faire du bien.
Ouais, ça va nous faire du bien.
Ça va nous faire. Moi, de vous voir, ça fait l'effet d'un massage, en fait.
C'est vrai.
Parler de paix, de concorde.
Génial. Ben, j'ai hâte. Moi aussi, ça va me faire du bien.
Super. On va changer le monde autour d'un verre un samedi soir. C'est une bonne idée. Venez.
C'est un bon programme.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Anna Assouline, vous êtes activiste pour la paix, documentariste. Vous avez 35 ans et vous présidez l'association que vous avez fondée Guerrières de la paix pour soutenir les femmes israéliennes et palestiniennes. Et votre association est nommée pour le prix Nobel de la paix cette année.
Oui.
Waouh. Alors j'avais envie de vous rencontrer parce que vous n'êtes ni d'un camp ni de l'autre, ce qui est une position difficile à tenir, on va en parler, et aussi parce que vous pensez que la paix viendra des femmes. Alors déjà, pourquoi n'être ni d'un camp ni de l'autre, c'est une position qui est difficile à tenir?
Alors d'abord, pour être très précise, on n'est pas vraiment ni d'un camp ni de l'autre, on est dans un camp qui est celui de la paix. Parce que nous, ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est que ce qu'on nous présente comme étant la seule offre possible, à savoir être aujourd'hui... soit pro-israélien, soit pro-palestinien, n'est pas réellement ce qui aujourd'hui est l'état de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui œuvrent ensemble pour la paix, la justice, c'est un mot important aussi pour moi, on est des militantes pour la paix et la justice. Et donc il y a dans ce camp des Israéliens, des Palestiniens, des Juifs, des Musulmans qui tous ont conscience que l'avenir de ces deux peuples devra passer par la paix, la justice et la dignité pour tous. Et donc ça, c'est un camp en soi. Et puis il y a de l'autre côté ceux qui se nourrissent mutuellement et qui continuent d'entretenir le chaos, la destruction et la haine de l'autre. Et ceux-là sont des alliés objectifs que sont aujourd'hui notamment le gouvernement d'extrême droite israélien, le Hamas, et les gens qui, à distance, attisent la haine de part et d'autre. Donc nous sommes dans un camp, et c'est celui de la paix.
Ah voilà. Donc vous n'êtes pas centriste alors, si vous avez un camp aussi.
Non, pas du tout. Non, non, non. On est radical même. Et oui. Ce qu'on affirme justement, c'est que peut-être que cette position aujourd'hui, qui est présentée par beaucoup comme une position soit naïve, soit angélique, soit parfois pire, on entend beaucoup de bêtises sur l'engagement pacifiste, et notamment le fait que ce serait une forme de neutralité. C'est-à-dire qu'on ne prendrait pas position, ce qui serait évidemment problématique dans le cas d'une situation d'injustice et d'oppression. Et nous, ce qu'on n'arrête pas d'affirmer, de répéter et de marteler, c'est que non, ce n'est pas une position neutre, que c'est une position radicale, que c'est une position politique, et que la paix, ça passe par des solutions politiques, ça passe par la justice. Et donc voilà, c'est ça le combat des guerrières de la paix.
Et d'où le nom guerrière de la paix, qui marque bien que vous n'êtes pas bisounours, comme on dit.
Exactement, c'est important pour nous.
Alors, on vous qualifie parfois de trop pro-israélienne, d'autres disent trop pro-palestinienne. Comment est-ce que vous gérez les injonctions à devoir choisir un camp ?
Bah, du coup, on les gère en les refusant. Absolument, effectivement, moi je suis juive, ça ne vous a pas échappé, donc forcément, mon avis a toujours, toujours jugé.
Je dirais qu'en fait, si, moi ça m'échappe.
Oui,
ça.
Oui, oui. Non, mais enfin, je veux dire, en tout cas, ça n'échappe pas. Il y a plein de gens à qui ça n'échappe pas, mais voilà. Et donc, effectivement, ma voix ne peut pas apparaître comme totalement. Neutre aux yeux de beaucoup, et d'ailleurs elle ne l'est pas. L'engagement n'est jamais neutre. On a toujours un prisme, on parle aussi de son histoire, de sa sensibilité. Je crois qu'il faut l'assumer. Les injonctions, de toute façon, voilà, encore une fois, moi, depuis le 7 octobre et même avant, parce que je crois que c'est important de rappeler que l'engagement des guerres de la paix est bien antérieur au 7 octobre, que ça fait des années qu'on est engagé sur ces questions. On est soit effectivement, moi pour ma part, une traître, l'idiote utile du Hamas, ou la caution des antisémites, soit une sale sioniste qui, puisque de toute façon je refuse précisément d'être une caution et que j'affirme aussi et mon identité et mon attachement par ailleurs à l'existence d'un État juif, tout en étant dans une critique extrêmement virulente de la politique fasciste de ce gouvernement. Donc cette position-là, effectivement, elle est difficile, mais je crois qu'il y a un chemin de clarté. C'est celui qu'on essaye de tenir collectivement avec les guerres de la paix. Un chemin de justesse, de nuance, de complexité et de reconnaissance de chacun. Et c'est ça qu'on essaye de faire pour résister justement à ces injonctions.
Mais justement, si les deux camps de va-t-en-guerre vous insultent, ça veut dire que vous faites bien le job.
C'est ce qu'on se dit, oui. Dans les moments où on n'en peut plus, on se dit, mais bon, écoute, si ces gens-là nous agressent de part et d'autre, c'est qu'on doit être pas trop au mauvais endroit.
C'est ça. Et vous pensez donc que la paix viendra des femmes ? Je me suis dit, c'est les femmes qui peuvent faire reculer Netanyahou et le Hamas ?
Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. D'abord, il y a des choses très concrètes. Notamment, nous, on parle beaucoup d'une résolution de l'ONU, qui est la résolution 1325, qui prouve de manière concrète que lorsque les femmes sont autour des tables de négociation et sont impliquées dans les processus de résolution des conflits, non seulement on arrive plus rapidement à trouver des solutions, mais qu'en plus, les solutions qui sont adoptées sont beaucoup plus pérennes et beaucoup plus stables dans le temps. Ce qu'on croit profondément, c'est que les femmes ont un rapport de responsabilité et de pragmatisme à la vie, beaucoup plus grand, que les femmes se sentent quelque part tributaires de préserver la vie, que ce sont celles qui apportent la vie au monde et qu'il y a donc chez elles cette espèce d'instinct de préservation de la vie qui fait que parfois, elles sont peut-être plus capables que les hommes de se détacher des dogmatismes ou des idéologies qui parfois ne tiennent pas compte du réel pour être dans, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour demain ?
Bistroscopie. Charline Vanhoenacker sur France Inter.
Vous allez nous raconter d'où vous vient cette vocation, Anna Souline. Vous vous définissez comme ceci, dans un livre que vous publiez qui s'appelle « Guerrière de la paix », paru au Seuil. « Je suis juive séfarade de gauche ». Donc vous expliquez, issue d'une famille juive marocaine côté père, juive algérienne du côté de votre mère. Donc je me suis dit, alors déjà, juif au Maghreb plus l'Algérie, le Maroc, vous êtes vraiment en conflit intérieur au carré depuis de votre naissance, en fait.
Mais non, moi, je ne le vis pas comme un conflit, justement. Non. Au contraire, je crois qu'il y a dans cette identité quelque chose qui est de l'ordre de la réconciliation. Et si on doit essayer d'aller chercher un petit peu ce qui m'anime depuis toujours et cette volonté, notamment particulièrement sur cette question judéo-arabe et cette volonté de s'engager sur la réconciliation entre juifs et musulmans, je pense qu'il y a justement dans cette identité multiple un petit peu de ce qui m'anime. Oui. Par ailleurs, bon, je suis quand même beaucoup plus imprégnée, ça va pas faire plaisir à ma mère qui pourtant m'a beaucoup transmis sur tout le reste, mais mes racines marocaines sont quand même très présentes, j'ai un rapport très fort avec le Maroc. J'y vais régulièrement, je me suis mariée là-bas.
En plus, vous venez d'une famille de gauche, donc la division et la guerre, c'est le quotidien, non ?
Ouais, c'est ça, la division, la guerre, et puis ensuite les grandes réconciliations. Et, c'est effectivement alors de gauche plus juif séfarade, donc les shabbats sont toujours très animés, ça peut très vite voler dans les tours. Je pense qu'il y a des gens qui participeraient à nos dîners, ils se diraient waouh, là c'est en train de partir en live total, alors que pour nous c'est juste le quotidien, c'est normal.
C'est un mode de communication.
Voilà, et puis il y a beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Donc,
Il y a un humoriste qui s'appelle Jonathan O'Donnell, qui est juif, en couple avec une femme musulmane. Et il dit, nous, on est un couple mixte, on reçoit des allocs, mais c'est pas la CAF qui nous les verse, c'est l'ONU.
C'est pas mal, ça.
Je me suis dit, l'appel peut aussi venir des couples mixtes.
Complètement. Mais d'ailleurs, on en avait dans la famille. Mon petit frère, depuis des années, avec une jeune femme qui est musulmane. Et voilà, et puis c'est une très belle histoire d'amour, ils sont trop mignons tous les deux, et voilà.
Alors bien qu'étant né et vivant en France, vous avez quand même grandi avec ce conflit israélo-palestinien. Vous avez entendu quoi, vos parents, votre famille discuter de ça à ce sujet depuis que vous êtes gamine ?
Ouais, c'est d'abord un sujet évidemment dont j'ai beaucoup entendu parler à la maison, mais c'est aussi un sujet qui très vite s'est invité dans ma vie à l'extérieur de la maison. Moi, j'ai grandi, donc je suis née en 90, j'ai grandi dans les années 90 quand j'étais ado et quand j'ai commencé à me forger une conscience politique, une conscience du monde, et puis l'arrivée des réseaux sociaux, de l'internet participatif, etc. Tout ça, c'était pendant mon adolescence. Donc c'est l'époque du collège, c'est l'époque du 11 septembre, des intifadas, de la montée de l'extrême droite dans notre pays, de la première fois que Le Pen se retrouve au second tour, de Ziad Ebouna, d'Ilan Halimi, de toute cette période. Voilà. Donc moi, mon adolescence a été traversée par tous ces drames et par cette montée des extrémismes, de l'extrême droite identitaire, du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie. Donc j'ai grandi avec ça. Et évidemment, ça a aussi impacté et fracturé nos relations et nos amitiés. Donc à l'échelle intime, on a été quand même très ébranlés par toute cette actualité. Et ça nous a forgés. Et donc, c'est l'année 2014 qui a été une année où il y a eu non seulement une guerre extrêmement meurtrière à Gaza, qui était la guerre bordure protectrice, et on a connu, alors dans une moindre mesure que ce qu'on connaît depuis un an et demi, mais énormément de tensions intercommunautaires en France, des débordements dans les manifestations, des affrontements, etc. Le débat a été extrêmement tendu sur les réseaux sociaux, c'était très polarisé, très violent, etc. Et puis, il y avait aussi tout ce moment autour de Dieudonné, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a pris une grande place dans le débat public, et c'était la première fois, en fait, que moi, je me retrouvais dans mon camp, qui est la gauche, à avoir des débats sur... avec des gens qui défendaient la liberté d'expression de quelqu'un d'ouvertement antisémite. Et ce moment, en fait, de grande solitude, où d'un coup, les lignes n'étaient plus aussi claires qu'elles l'étaient avant pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un camp antiraciste qui faisait front face à l'antisémitisme, à la haine des musulmans, à toutes les formes de racisme. Et c'est ce moment-là où un petit peu les choses se sont fracturées, où j'ai eu parfois ce sentiment de grande solitude, d'abandon. Où...
2014, vous parlez des réseaux, c'est les balbutiements des réseaux. Là, on est sur MSN, en fait.
Oui, c'est ça. C'est vraiment l'essor. Enfin, on est au tout début de l'Internet participatif, et donc on arrive vraiment dans ce moment où il y a une concomitance entre à la fois une espèce de repartage des cartes politiques où les lignes ne sont plus ce qu'elles étaient en tout cas jusqu'à présent à mes yeux, et puis ça correspond effectivement à l'essor de l'internet participatif et donc à une plus grande polarisation où d'un coup on sait ce que pense chaque personne qu'on croisait dans la rue sans vraiment savoir ce qu'elle likait, ce qu'elle pensait, enfin voilà, là d'un coup on a le passeport idéologique de tous les gens qui nous entourent, de tous nos copains du collège, de primaire, de la boulangère, de la voisine, de machin. Et donc, c'est d'une grande violence, il faut apprendre à dealer avec tout ça. Et donc, c'est pour ça que pour moi, cette année symbolise quand même une espèce de bascule et de grosse prise de conscience aussi sur beaucoup de sujets.
Et vous avez grandi, notamment avec un père qui organisait aussi des manifs antiracistes.
Exactement.
Vous étiez sur ses épaules dans les manifestations. Est-ce que vous avez vu une évolution entre la manière de lutter contre le racisme quand vous étiez enfant et adolescente et l'antiracisme aujourd'hui ?
Oui, bah, c'est justement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec des parents très militants qui ont commencé à l'extrême gauche et puis qui ensuite se sont... Enfin, ma mère, elle se réclame toujours de la gauche radicale, comme elle dit. Mon père, plutôt de la gauche
sociale-démocrate. Elle est sociologue-journaliste.
Et voilà. Et donc, du coup, j'ai grandi dans un milieu très militant. J'ai fait toutes les manifs sur les épaules de mes parents, à crier première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. J'ai vécu aussi dans l'animation des débats, des amis de mes parents de toutes origines, beaucoup notamment de militants antiracistes algériens avec lesquels mes parents ont beaucoup travaillé, ont beaucoup milité, notamment sur la reconnaissance des crimes du 7 octobre à Paris. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est le contexte dans lequel j'évolue. Où quand même, il y a des gens de toutes origines, mais il y a ce noyau dur et cette espèce de condition commune, en tout cas de forme d'appartenance à une histoire commune entre des militants antiracistes, juifs et musulmans. Mmh. Et moi, c'est cet héritage-là que j'ai, avec lequel je grandis, qui me nourrit, qui nourrit mes engagements.
Est-ce qu'il est en décalage aujourd'hui avec l'antiracisme aujourd'hui, la manière dont il s'exprime, ou la manière dont il lutte ?
Il n'est pas du tout en décalage avec l'antiracisme tel que nous, au Guerre de la Paix, on le défend, mais il est en décalage avec celui qu'on essaye de nous présenter, puisque aujourd'hui on vit quand même à une époque où on ne cesse d'instrumentaliser ces deux communautés les unes contre les autres, d'un côté par des racistes qui font semblant de défendre les juifs pour mieux taper sur les musulmans, et de l'autre côté par des gens qui se disent antiracistes mais qui sur la question de l'antisémitisme ne sont pas à la hauteur, donc on se retrouve pris en étau, et c'est un grand drame, en tout cas pour moi c'est une profonde tristesse même, et donc c'est de ce constat d'ailleurs et de ce refus qu'est née les Guerrières de la Paix. Parce que les Guerrières de la Paix, avant d'être une caisse de résonance de l'engagement de femmes israéliennes et palestiniennes, c'est un mouvement de femmes françaises qui s'est constitué autour d'un noyau dur de femmes juives et musulmanes qui ont dit stop. On refuse que nos histoires, que nos souffrances, que nos mémoires soient instrumentalisées les unes contre les autres. On est ensemble et c'est à partir de cette solidarité, de cette sororité et de tout ce qu'on a en commun qu'on va créer un vrai front de femmes antiracistes dans notre pays.
Dans Guerrières de la Paix paru au Seuil, Anna Assouline, vous dites « Ma génération a forgé un concept politique, une identité judéo-arabe pour lutter contre l'opposition juif-arabe qui a envahi nos imaginaires. » C'est-à-dire qu'il a fallu que votre génération invente ce concept que peut-être les historiens ne sont pas tout à fait d'accord avec, mais c'est mieux de composer avec aujourd'hui. Vous pouvez me l'expliquer ?
Oui, complètement. Alors, le fait de se revendiquer comme juif arabe, ça fait bondir des historiens qui me disent « mais ça ne veut rien dire, vous inventez une identité qui ne veut rien dire concrètement ». Et on leur répond, en fait, c'est une identité politique réconciliatrice. Et on a décidé de se réapproprier ces deux termes qu'on nous a présentés toute notre vie comme un antagonisme absolu, une opposition absolue, comme une pleine et entière et même identité.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie d'Anna Assouline, pacifiste féministe, qui est nommée cette année pour le Nobel de la paix, pour Guerrière de la paix, son association qui promeut le dialogue et les femmes juives et musulmanes. Alors Anna Assouline, en 2016, vous partez à la rencontre des femmes qui s'engagent pour la paix, côté israélien et côté palestinien. Vous ramenez un documentaire en 2018 pour LCP. Il y a un nouveau documentaire là qui sera diffusé demain soir sur France 5 à 23h, Résister pour la paix.
Exactement, et qui sera réalisé avec Sonia Terram, une merveilleuse réalisatrice marocaine, une merveilleuse amie et guerrière de la paix également.
Et là-bas, qu'est-ce que vous découvrez avec ces femmes des deux côtés ?
Alors d'abord, je suis à l'époque enquêtrice parce que j'ai commencé donc ma formation comme journaliste et je travaillais beaucoup pour des magazines d'investigation, je travaillais pour Cache Investigation.
Envoyé spécial.
Et à un moment donné, je suis sur les réseaux sociaux et je vois circuler des images sur Facebook à l'époque, prises au téléphone portable de marche, où je vois des centaines, des milliers même de femmes israéliennes et palestiniennes qui marchent dans le désert ensemble. Donc évidemment, je suis bouleversée devant ces images, je cherche à en savoir plus. Je ne trouve pas une brève qui relaye cette initiative. Alors même que moi, je grandis avec ce conflit comme un des conflits les plus médiatisés au monde. Et là, il se passe quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment un déclic en fait qui se passe, où j'étais jeune, on n'arrêtait pas de me dire « Ah, tu vas devoir être enquêtrice encore très longtemps avant de pouvoir faire ton propre doc, attends, et puis quand tu vas d'abord faire du mag, parce que les docs d'auteur, il faut que tu aies 45 ans. »
Ah, les vieux briscards du journalisme.
Voilà, exactement. Donc tout le monde m'explique un petit peu ça, et là je me dis « Bah, puisque personne n'en parle, je vais y aller, je vais aller les rencontrer, je vais essayer de comprendre qui sont ces femmes, et il faut absolument en fait qu'on relaye cette histoire et qu'on en parle. » Donc je prends un billet, c'est un documentaire qui a fini par trouver diffuseur, producteur, mais qui pendant longtemps c'est des allers-retours autofinancés, des caméramans qu'on débrouille sur place.
Donc bref. Le sujet n'intéressait pas quoi.
Ah, mais non seulement le sujet au début n'intéressait pas, mais on se heurtait à un cynisme et à un mépris qui était à la fois, je crois, de l'ordre du mépris classique qu'on continue de se prendre dans la figure quand on parle de pacifisme. Bah de la part d'un peu tout le monde, des producteurs, des diffuseurs. Alors il y a quand même rapidement le producteur pour lequel je travaillais avant qui nous dit on va essayer de vous accompagner sur ce projet, mais tous les diffuseurs regardent genre c'est qui ces femmes.
Ah oui, mais donc alors si on comprend bien, la guerre c'est vendeur pour les médias mais pas la paix. Mais donc
exactement.
Ça c'est un problème parce que si on vend pas la paix, comment est-ce qu'on peut la faire ?
Bah, je suis complètement d'accord, c'est exactement ce qui nous anime d'ailleurs et c'est ce qu'on vit. En même temps, en tant que journaliste, tu dois en avoir conscience. On est à une époque où, effectivement, ce qui divise, ce qui fait le buzz, c'est le clash, c'est la violence, c'est la surenchère, etc. Et donc, effectivement, on se dit, injustement d'ailleurs, moi je crois que c'est une fausse idée. Parce qu'on se pose toujours un peu la question de qui, de la poule ou de l'œuf, à un moment donné, quand on propose du contenu comme celui-là, est-ce que finalement on nourrit pas aussi ? Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité en proposant autre chose, un autre angle de vue ? Parce que par exemple, les Guerres de la paix, à chaque fois qu'on a montré ce film, quels que soient les contextes, les gens étaient bouleversés et surtout, il y avait toujours cette même réaction, à savoir pourquoi on ne voit pas ça ? Pourquoi on ne nous montre pas ces images ? Pourquoi on n'entend pas ces voix ? Et donc, c'est cette volonté qui a guidé la volonté de faire ce documentaire et de mettre la lumière sur ces militantes.
Je voudrais qu'on s'arrête sur deux portraits de femmes, déjà des deux côtés. On va d'abord côté israélien, une militante de la paix qui s'appelle Viviane Silver, qui a été assassinée le 7 octobre. Est-ce que tu peux nous dire, Anna, qui était-elle ? Apparaît dans le documentaire qu'on verra demain soir.
Oui. Alors Viviane Silver, c'est une femme que nous avons eu le grand privilège de rencontrer parce qu'en fait nous étions sur place, c'est ce qu'on voit aussi dans le documentaire, on était avec une délégation de guerrières de la paix du monde entier, en Israël et en Palestine, juste avant le 7 octobre, on est rentré en fait dans la nuit du 6 au 7, donc le 7 octobre au petit matin. Et pendant cette semaine, on a rencontré de nombreux militants en Israël et en Palestine, dont cette femme extraordinaire et particulièrement lumineuse qui nous a toutes marquées. Viviane Silver, qu'on a rencontrée au kibbutz Netiv Asara, qui est un kibbutz voisin du kibbutz Be'eri où elle vit, où elle vivait. Et c'est une femme qui a dédié toute sa vie au combat pour la paix, pour les droits humains, qui faisait partie de nombreuses associations, dont Women Wage Peace, mais aussi une association qui convoyait des enfants malades de Gaza vers des hôpitaux israéliens pour qu'ils puissent avoir accès à des soins. Et voilà, c'est une femme qui n'avait jamais perdu cette espèce de flamme. C'est pour ça qu'elle nous avait bouleversés d'ailleurs, parce que c'était une femme assez âgée, toute petite, toute menue, avec une voix très douce. Et elle avait cette espèce de lueur dans les yeux qu'aucune désillusion n'avait semblé réussir à éteindre. Et donc, quand évidemment le 7 octobre, on a appris qu'elle était... on a d'abord juste appris qu'elle ne répondait plus au téléphone. Et on a d'ailleurs cru pendant un mois, et on a parlé pendant un mois d'ailleurs, quand on parlait d'elle, on disait qu'elle était otage. Et puis finalement, ils ont fini par retrouver des traces de son ADN dans sa maison. Donc on a su qu'elle avait été brûlée le 7 octobre. Et ce qui est particulièrement bouleversant, c'est que son fils, depuis la mort de sa mère, a décidé de dédier toute sa vie et toute sa force dans le fait de poursuivre cet engagement pour la paix.
Il est bouleversant, il n'est pas du tout dans l'esprit de vengeance, au contraire, il œuvre au dialogue. Comment est-ce qu'il y arrive alors qu'il est dans la maison, dans le kibbutz, qui est en cendres? Vous avez filmé là.
Vous savez, il y a beaucoup dans les militants israéliens et palestiniens avec lesquels on travaille et qu'on a rencontrés ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui sont issus de familles endeuillées. Et je ne crois pas que ce soit un hasard. Je ne crois pas que ce soit un hasard si ceux qui ont connu dans leur chair les pires conséquences de ce que la guerre produit sont ceux qui précisément refusent que ça se reproduise.
Et d'ailleurs, à un moment, il dialogue avec un ancien combattant du Hamas. C'est un moment très fort de votre documentaire. Comment vous avez organisé cette rencontre? Il ne s'était jamais vu. C'est fou.
Bah, c'est un peu la magie.
Un repenti du Hamas, il faut le dire.
Oui, un repenti qui lui-même d'ailleurs est endeuillé et a perdu près de 60 membres de sa famille dans des bombardements à Gaza depuis le 7 octobre. Et ça, c'est vraiment la magie du documentaire. C'est que des fois, il se passe des choses devant nos caméras, que même si on avait voulu les écrire, je pense qu'on n'aurait pas eu des moments de grâce comme cela. Là, il y a ce moment où, en fait, nous, on se dit, on va faire se rencontrer Yonatan et Ahmed, qui sont donc le fils de Viviane, qui a été assassiné le 7 octobre, et Ahmed, qui est un militant d'une organisation qui s'appelle Combatants for Peace, qui réunit d'anciens soldats et d'anciens combattants de la lutte armée palestinienne. Et donc on se dit qu'ils vont dialoguer, qu'ils vont échanger, qu'ils vont partager leur... Mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et là, effectivement, on vit ce moment de grâce absolue. On est en larmes en même temps qu'on filme.
Et alors, côté palestinienne de Cisjordanie, il y a Rehem Al-Ajajra, qui est présidente de l'association Women of the Sun. Alors, elle, qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle a en commun avec Viviane Silver, l'israélienne?
Alors, Rehem Al-Ajajra, c'est une femme extraordinaire, d'un courage, d'une force, d'une dignité vraiment particulièrement bouleversante. Et ce qu'elles ont en commun, ces femmes, c'est qu'elles ont cette espèce de sentiment très fort de responsabilité et de pragmatisme. Rehem parle beaucoup de son statut de mère. Elle explique à quel point il est constitutif de son engagement et de sa volonté
aussi,
de sauver ses enfants. Ouais.
Son fils lui dit « Vas-y, pars devant, moi je te regarde faire hein, quand même ».
Oui, c'est ça. Et puis c'est très beau parce qu'en fait, on voit à la fois ses réticences. On voit bien que son fils a une forme de distance par rapport à ce que veut dire la paix, par rapport à tout ça. Il est assez dubitatif et en même temps très admiratif de voir sa mère poursuivre dans cette voie. Et je crois que c'est ça aussi, c'est beau, c'est bouleversant de voir à quel point elle arrive à forcer le respect des siens, de son entourage, de sa famille, même quand parfois elle est incomprise, parce que son courage, d'une certaine manière, les oblige.
Et toi, Anna, est-ce que tu as des modèles féminins ou masculins? Ces femmes le sont, j'imagine, parce qu'elles sont très inspirantes. Mais
moi, je réponds toujours. Alors, évidemment, je peux vous répondre. Il y a énormément de figures féministes qui m'ont inspirée. Voilà, Simone Veil, Rosa Parks, Toni Morrison, enfin je pourrais vous en énumérer beaucoup, mais je crois que déjà, il y a énormément de femmes qui dans l'anonymat se battent tous les jours, que ce soit des militantes associatives, que ce soit des militantes qui sur le terrain à l'international continuent de résister, de se battre pour leurs droits, pour la liberté, et toutes ces femmes sont des héroïnes, donc moi c'est toutes ces femmes-là qui m'inspirent. Ma mère m'a beaucoup transmis. Voilà, c'est quelqu'un qui est une boussole pour moi à plein d'égards, même si on n'est pas d'accord sur tout.
Ma mère, elle m'a transmis quelque chose de fondamental et je crois que quand on réussit à transmettre ça, quand on est une femme à sa fille, c'est peut-être la base d'une belle leçon de féminisme. En tout cas, c'est peut-être la première étape, c'est que ma mère, elle m'a transmis la fierté d'être une femme. Voilà, j'ai toujours été très heureuse d'être une femme. C'est quelque chose de fort de se le transmettre entre femmes, je trouve. Oui.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie, sur France Inter.
Dans votre livre « Guerrière de la paix », Anna Assouline, vous racontez un épisode de votre mariage au Maroc, que je trouve très intéressant. Une amie d'enfance qui fait le déplacement, ça vous touche énormément. Mais vous remarquez qu'elle elle fait des quenelles, quoi. Elle a des actes et même des propos antisémites. Et vous expliquez que néanmoins, elle vous porte une grande affection, que vous avez beaucoup d'affection pour elle. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a, évidemment, on a du mal à comprendre comment vous arrivez à, non pas passer au-dessus de ça, mais comment vous arrivez à concilier ça parce que...
Bah là, ce que vous touchez du doigt, c'est pour moi ce qui est le plus bouleversant en fait dans l'humanité. C'est vraiment ces gens, par exemple, qui votent RN, mais qui vont. J'avais entendu cette histoire d'un père qui votait Rassemblement National, mais qui avait été le premier à se mobiliser parce que la copine de sa fille avait une OQTF et qu'il voulait pas que et qu'il l'aimait bien en fait parce que c'était la copine de sa fille et que mais qu'en fait il votait RN et enfin en fait je crois que la vie est faite de ces contradictions et que c'est ça aussi l'humanité. C'est des gens qui parfois s'aiment mais qui en même temps sont traversés par des idéologies, par des fantasmes. Enfin moi voilà, j'ai grandi dans un quartier où j'étais la seule juive de la bande et où j'ai déjà entendu plein de fois « Ouais, mais toi, t'es pas comme les autres, on t'aime bien, toi, t'es différente », comme si c'était quelque chose qui allait me faire plaisir. Alors qu'à chaque fois, c'était pour moi une grande blessure d'entendre ça. Ouais. Et donc, en fait, il y a ces espèces de relations qui résistent sur un fil, alors même qu'on a presque plus rien en commun, mais qu'il y a quand même cet amour. Voilà, moi, mes copines avec lesquelles j'ai grandi, il y en a beaucoup qui partagent des horreurs sur les réseaux sociaux toute la journée et qui pourtant, à minuit une, le jour de mon anniversaire, sont les premières à m'appeler depuis 25 ans. Enfin, 25
ça
ans.
Veut dire que vous les cancelez pas.
Ça veut dire que c'est compliqué, ça veut dire que nos vies, nos vraies vies, elles sont compliquées, elles sont faites de douleurs, elles sont faites de déchirures, elles sont faites d'abandon, elles sont faites aussi de fraternité. Si je peux juste raconter, je sais pas si on a le temps, mais
allez-y.
Moi, il y a une anecdote qui m'a bouleversée, qui je trouve raconte très bien et incarne très bien ce qu'on est en train de raconter là. Quand on était en Israël et en Palestine avant le 7 octobre, on a fait une rencontre dans la ville de Haïfa. Et il y a une femme qui était une femme juive d'origine marocaine, qui était très virulente, qui avait enfin, voilà, c'était un grand caractère, etc. Qui nous racontait qu'une fois, elle avait participé à une initiative pour la paix qui réunissait des femmes israéliennes et palestiniennes et qu'elle avait rencontré cette femme palestinienne qui était restée dans son coin et qui avait refusé de participer à tous les échanges et qu'elle avait décidé d'aller vers elle et de lui demander « Mais tu es là, ce moment est organisé pour qu'on se parle, pourquoi refuses-tu de nous parler ?» Et cette femme lui avait répondu « Je suis venue parce que c'était la seule possibilité pour moi d'avoir un laissez-passer et de quitter la Cisjordanie et de pouvoir venir dans une autre ville, mais vous êtes des sales sionistes, vous êtes des assassins, je ne parle pas avec vous. » Et qu'elles avaient eu, suite à cette remarque, un échange très virulent toutes les deux, et qu'elles s'étaient disputées, mais qu'au moins un échange avait eu lieu, et qu'elles avaient échangé leurs coordonnées. Et cette femme raconte que quelques mois après, la guerre avec le Liban en 2006 éclate, et que donc tout le nord d'Israël est sous les missiles, et que donc une grande partie du nord doit aller dans des abris régulièrement, etc. Et qu'un soir, son téléphone sonne, et que c'est cette femme palestinienne qui l'appelle, qui s'appelle Naïma, et qui lui dit « Est-ce que tu es en sécurité ? Et si c'est pas le cas, viens chez moi. » Je t'héberge le temps que ça s'arrête. Et je sais pas, cette histoire m'a particulièrement bouleversée. Enfin, je me souviens que quand elle nous l'a racontée, j'étais en larmes. Et je trouve qu'il y a dans cette histoire beaucoup de toute cette complexité humaine qui nous traverse. Et il y a aussi beaucoup d'espoir. Parce que c'est peut-être sur ce fil-là, en fait, de rapports concrets entre les gens qui peuvent continuer de s'aimer malgré les dogmatismes, malgré les idéologies, malgré la propagande.
Mais ce
quelque chose qui peut retisser quelque chose.
Si on continue à faire en sorte qu'il ne casse pas, vous pensez que ce fil-là, il peut permettre de finir par convaincre un peu ? Parce que quand j'entends ce que vous donnez comme exemple, l'épisode de votre mariage et cet autre épisode... Il y a l'individuel, l'affect, etc. Et puis, il y a quelque chose de systémique qui paraît un rouleau compresseur.
Vous savez, il y a aussi, et ça fait partie d'ailleurs de la manière de concevoir l'engagement féministe, le fait de penser que l'intime est éminemment politique. Et pour pouvoir reconnaître l'autre et sa légitimité à vivre à côté de soi et à vivre dans la dignité et dans l'indépendance, il faut réhumaniser. Et aujourd'hui, on est dans un tel niveau de déshumanisation d'un camp comme de l'autre que rien n'est possible. Et donc le politique ne pourra pas se bâtir sur un tel niveau de déshumanisation. Donc je crois qu'il faut qu'on parte de là, que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sur plusieurs fronts en même temps, mais que ce front-là est essentiel pour reconstruire.
Mais dites-moi, en tant que guerrière de la paix, si à la paix, vous perdez votre job ?
Si à la paix, je suis la plus heureuse du monde. Donc le job, de toute façon, j'ai pas vraiment de job, hein, vous savez, les militants.
Alors cet après-midi,
peut-être que je trouve un job.
Oui, c'est vrai.
Peut-être que si à la paix, je trouve enfin un job, je vis enfin normalement, j'ai enfin un salaire et
un
voilà.
Un vrai métier.
Ça, ce serait pas mal.
On arrive à la fin de cet entretien, Anna Assouline. Alors, ça implique quoi d'être nommée pour le prix Nobel de la paix 2025 ?
Je vous avoue que nous, ça nous est tombé dessus. On était presque, je ne sais pas comment vous dire, mais c'était presque trop grand pour nous. C'est-à-dire que on est extrêmement honorés, mais ça s'accompagne vraiment pour
J'adore
nous.
J'adore quand vous dites c'est trop grand pour nous, alors que vous œuvrez quand même pour la paix, notamment en Israël, en Palestine, et vous dites le Nobel c'est trop grand pour nous.
Bah,
j'ai l'impression
pas,
que attaquer les vrais, c'est quand même un petit peu votre ce que vous aimez faire.
Non, je ne sais pas. Oui, peut-être qu'il ne faut pas dire ça, et peut-être que c'est un truc de femme de d'avoir cette espèce de complexe que je continue de régler.
Rappelez-vous ce qu'a dit votre maman.
Non, tout à fait. Non, tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, ce que ça veut dire, c'est à la fois évidemment une très très belle reconnaissance qui nous honore énormément, mais c'est surtout un grand grand sentiment de responsabilité, un appel à ne rien lâcher, à continuer de se battre encore plus fort, à faire encore plus de bruit et à rester unis, debout et ne rien lâcher.
Eh bien, bon combat.
Merci.
Anna Assouline.
Merci beaucoup.
Et donc, demain soir, sur France 5, votre documentaire, donc diffusé à 23h et en replay, qui s'intitule « Résister pour la paix ».
Merci beaucoup.
Merci Anna.
Merci.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin, réalisateur, Geoffrey Marianne à la technique et Clément Vouillet au mixage. Merci aussi à Corinne Chauvel à la documentation. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20.